Débat, BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
Bonjour et bienvenue, toute l'équipe de votre magazine vous salue et bonjour Francis Laloupo.
Bonjour Liliane, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de notre émission Le Débat, BBC Afrique, Africa Radio.
Et je suis très heureuse de savoir que la température a baissé chez vous en France et c'est tant mieux, non ?
Oui, je pense qu'on est à peu près au même niveau de température que Dakar en ce moment, non ?
C'est rassurant. Au Togo, municipal après 32 ans, quel impact après le vote de dimanche dernier ? On attend de voir quelles pourraient être les retombées pour les électeurs et le pays. En tout cas, le président togolais Fornia Simbe espère pour sa part que ce scrutin marquera, je cite, « une avancée majeure dans l'enracinement de la démocratie ». Son vœu se réalisera-t-il ou va-t-on assister à des accusations de fraude massive qui vont alors tuer cet espoir ? Analyse. 20e vendredi de contestation en Algérie et la mobilisation est toujours forte. Les manifestants réclament la fin du pouvoir intérimaire dirigé par les fidèles du pouvoir déchu d'Abdelaziz Bouteflika. Cette semaine, Mouad Bouchareb, président de l'Assemblée populaire nationale, a démissionné alors qu'Abdelkader Ben Salah, président par intérim et dont le mandat prend enfin mardi prochain, propose un dialogue inclusif sans l'armée ni les autorités politiques afin de mettre fin à la crise. La société civile se montre sceptique. S'achemine-t-on vers un vide constitutionnel ? Comment sortir de l'impasse ? Débat à suivre. La coalition d'opposition Lamouka, qui avait porté la candidature de Martin Fayoulou à la présidentielle de fin décembre en RDC, va-t-elle survivre à ses dissensions internes ? 6 mois après l'élection de Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou maintient son rejet des résultats et appelle ses partisans à manifester. C'était encore le cas le dimanche 30 juin dernier, alors que le nouveau patron de la coalition, Moïse Katumbi, s'était montré distant et plus conciliant à l'égard du président élu. À vous, Francis, pour le plateau.
William, notre grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Lomé au Togo, Wolu Komi, secrétaire général du Pacte socialiste pour le renouveau, le PSR. Monsieur Wolu Komi, bonjour.
Bonjour, monsieur, et bonjour aux auditrices et aux auditeurs.
Vous êtes que votre parti, le PSR, est membre de la coalition des forces démocratiques et membre de la coalition C14, l'opposition au Togo. Deux confrères invités au téléphone depuis Sali au Sénégal. Ousseynou Narguey, Ousseynou, bonjour.
Bonjour Francis, bonjour Liliane.
Bonjour.
Ousseynou Narguey, dans un bel endroit au Sénégal, en tout cas à Sali. Ousseynou Narguey, vous êtes éditorialiste, directeur de la publication du site d'information tract.sn. Et nous serons rejoints un peu plus tard au cours de l'émission par notre confrère, invité depuis Alger, Karim Kébir, journaliste au quotidien Liberté. Et monsieur Wolu Komi, petite présentation, coup de présentation. Vous êtes titulaire d'un doctorat en droit de l'Université de Lille 2 en France, obtenu en 1996. Vous êtes enseignant, vous avez été enseignant-chercheur à la faculté de droit de Lomé en novembre 1996 d'ailleurs, et professeur agrégé en droit privé et sciences criminelles. Et vous êtes depuis octobre 2016 doyen de la faculté de droit. Et en décembre 2015, vous êtes devenu le porte-parole du Pacte socialiste pour le renouveau, le PSR, avant d'occuper le poste de secrétaire national de ce parti. Et comme je le disais, cette formation est membre de la coalition de l'opposition dénommée C14. Vous serez notre invité, grand témoin dans cette édition du débat BBC Africa Radio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Liliane, c'est à vous à Dakar.
Et les résultats des élections municipales devraient être annoncés selon la commission électorale vendredi après-midi. Au moment où nous enregistrons donc cette émission, nous ne pourrons donc pas commenter ces chiffres des élections locales, ces résultats provisoires des élections locales au Togo. Mais on sait que c'est dans le calme que les électeurs ont voté dimanche pour élire leurs conseillers municipaux après 3 décennies d'attente. Les dernières élections locales remontent à 1987. Les précisions du correspondant de BBC Afrique à Lomé, Nicolas Akbosso.
15, 16, 17, 18, 19. 95 plus 1, 96. C'est bon.
À l'image de ce centre de vote que nous avons visité à Enfouin, à 60 km de la capitale togolaise à l'heure du dépouillement, la plupart des bureaux de vote qui ont ouvert à 7h ont fermé à 16h conformément à la loi électorale. Mais sans Bélévon Doucet, président de l'un des bureaux de vote visités.
On a passé une très bonne journée, pas d'incident. Tout s'est passé très bien. On a commencé à 7h00.
inscrite 430, nombre de votants 207, bulletin nul 07.
Sur le manque d'affluence noté devant les bureaux de vote dans la plupart des localités du pays, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Tchambakou Ayassor, explique.
Dans beaucoup de bureaux, nous retenons que c'est quand même un dimanche, donc un jour de culte, ce qui fait qu'on s'attend à ce que le matin, les gens soient allés pour bon nombre au culte.
Beaucoup d'électeurs qui ont exprimé leur suffrage placent déjà leur espoir dans les futurs maires qui seront élus à la fin du processus. 24 formations politiques et 100 listes indépendantes issues de divers corps de métier de la société civile ont fait acte de candidature. Nicolas Agbossou, BBC Afrique, Lomé.
Voilà, 24 partis politiques, 100 listes indépendantes pour un total de 569 listes, 1527 conseillers municipaux à élire dans 117 communes pour un mandat de 6 ans renouvelable 2 fois. Voilà donc en quelques chiffres, Monsieur Wolo Komi, les élections locales dans votre pays. Quelle lecture faites-vous justement de ces chiffres? Est-ce que c'est synonyme d'engouement ou plutôt un motif de déception pour vous?
D'entrée, il faut dire que relativement au nombre de partis politiques qui ont participé, et c'est un motif d'engouement, disons, des indices. Mais ce n'est pas le nombre des partis politiques qui participent qui est le plus important. C'est plutôt la mobilisation de la population. C'est l'élément le plus déterminant. Et de ce point de vue, je crois que et on peut dire, sans risque de se tromper, qu'il y a une véritable déception parce que l'abstention est le vainqueur vraiment de ces élections.
Mais pour l'instant, on n'a pas encore le taux de participation officiel de ce scrutin. Et à votre niveau, que pouvez-vous dire du taux de participation estimatif?
Vous savez, relativement à ce qui a pu se constater sur le terrain, puisque dans les bureaux de vote, nous avions, au moins dans certains bureaux de vote, des représentants. Et nous-mêmes, nous sommes allés voter et à Lomé dans un centre urbain, dans la capitale, où, en principe, on est censé avoir aussi une forte mobilisation. J'étais allé autour de 12 heures. Il n'y avait personne, pratiquement. J'ai voté sans avoir fait la queue. Je m'inquiétais, j'ai dit à mes proches de se déplacer assez rapidement puisque dans l'après-midi, certainement, s'il y aura affluence, ils seront obligés de faire la queue. Mais malheureusement, à 15 heures environ, donc mes proches qui se sont déplacés dans le même bureau de vote m'ont dit et ils y étaient, il n'y avait pas non plus de queue. Et quand ils ont posé la question aux membres des bureaux de vote, ils ont dit que c'est le même phénomène qui a été constaté toute la journée. Et je crois que cela s'est répété à divers endroits, non seulement à Lomé, mais dans les différents centres urbains. Donc, on peut dire véritablement, peu importe les statistiques que les autorités viendront donner, puisqu'il n'est pas exclu qu'il y ait des ajustements des chiffres. Et on est coutumier donc de ce fait au Togo. Donc, il n'est pas exclu qu'il y ait des ajustements du chiffre pour nous donner un taux de participation qui, en réalité, ne serait pas.
Vous craignez un risque de gonflement de taux de participation. Merci.
Oui, c'est vrai.
Wolo Komi, un bon nombre de partis de l'opposition, la coalition C14 notamment, avaient boycotté les dernières législatives. Et là, certaines formations de cette coalition C14 ont décidé d'aller à ces élections locales. C'est le cas de votre parti, je suppose?
Oui, c'est le cas de notre parti, mais je voudrais vous dire quelque chose. Je n'aime pas trop qu'on utilise l'expression boycott parce que cela n'a jamais fait partie de notre.
D'accord, en tout cas, vous n'avez pas voulu aller à ces élections législatives, on l'avait bien remarqué.
Non, je m'explique davantage, c'est dire qu'ils ont mis tout en œuvre pour nous exclure de ces élections. C'est beaucoup plus conforme à la réalité.
Ont tout fait pour vous exclure des législatives, c'est ce que vous dites?
Des législatives, effectivement.
Et vous n'ont pas exclu des locales. Pourquoi?
Bon, dans tous les cas, ils nous ont pas exclu des locales pour la simple raison peut-être que les enjeux pour eux au niveau des élections législatives ne sont pas les mêmes s'agissant des élections locales. Et vous avez vu dans quel contexte les élections législatives qui sont déroulé dans notre pays. Il y avait des enjeux relativement à la modification de la Constitution, les questions donc, du mandat du président de la République. Donc, il faut reconnaître qu'on n'a pas les mêmes enjeux s'agissant des élections locales.
Mais vous n'êtes pas allé aux élections législatives aussi parce que vous considériez à l'époque que la crise politique en cours dans votre pays depuis trois ans maintenant, que cette crise n'était pas vidée et qu'elle n'était pas résolue. Est-ce que vous pensez désormais que la crise est réglée avec votre participation aux élections locales ?
Non, la crise n'est pas réglée non plus. Elle n'est pas réglée. Et s'agissant des élections législatives, vous voyez, nous avons estimé que les organes devaient être revus et nous étions sur le point, en réalité, d'aboutir à un accord. Lorsque, subitement, nous n'avons pas compris que les discussions en cours avec les médiateurs aient pu être remises en cause et qu'on assiste à la situation qu'on a connue. Et actuellement aussi, nous ne pouvons pas dire que les conditions idéales sont remplies, mais nous étions obligés, bien nous avons décidé d'y aller quand même, et malgré tout, et nous pensons que c'est un processus qui s'engage, puisqu'il faudrait le faire et nous préparer aussi des élections de 2020.
Enfin, Francis, je pense que si vous voulez savoir, ça veut dire que désormais, vous considérez que le débat sur les réformes constitutionnelles est clos avec la participation aux élections locales de la plupart ou des principaux partis politiques de l'opposition togolaise ?
Nous ne considérons pas que ce débat est clos, mais il est susceptible de les résultats obtenus actuellement relativement à ces réformes sont susceptibles d'amélioration. On peut les améliorer, bien évidemment. Mais il est possible, malgré tout, que nous puissions d'abord nous inscrire dans ce processus. Et avec le temps, certainement que nous allons améliorer cela. Puisque les rapports de force permettant actuellement de modifier ces textes ou bien de les améliorer, et ces rapports ne sont pas pour l'instant favorables.
Pour vous, quelle est la principale explication de cette faible mobilisation ? On a entendu dans le reportage du correspondant de BBC Afrique, à Lomé, dire que le président de la commission électorale dire que c'est parce que l'élection s'est tenue un dimanche et que le matin, les électeurs étaient probablement dans les églises pour participer au culte. Est-ce que vous êtes convaincu par cette raison ou pensez-vous qu'il y a d'autres éléments qui expliquent la faible mobilisation, notamment dans la capitale des électeurs ?
Tant que les Togolais n'ont pas voté pour des locales depuis 32 ans.
Tout à fait.
Oui, en réalité, l'explication donnée par le président de la commission n'est pas valable. Vous l'avez constaté vous-même, j'ai dit que j'y étais personnellement autour de midi à la sortie du culte, espérant que l'après-midi, on aurait davantage de mobilisation. Mais mes proches qui sont allés dans l'après-midi ont constaté exactement la même chose.
Quelle est donc la raison, selon vous, de cette faible affluence ? Si ce n'est pas le fait que c'était dimanche.
Plusieurs raisons expliquent cette situation. C'est que pour la plupart des Togolais aujourd'hui, le vote ne signifie absolument rien. C'est-à-dire que l'expression donc, des urnes ne correspond pas aux résultats qui sont souvent proclamés.
Mais quelle leçon vous en tirez, vous, justement, en tant qu'opposition ? Parce que cela signifierait-il qu'il y a un décalage désormais entre le sentiment de la population et vos choix en tant qu'acteur politique ? Puisque vous êtes allé à ces élections, vous.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire la participation, pour une fois, de l'opposition à cette élection tant attendue depuis 1987 devait être un élément de motivation de vos électeurs.
Effectivement. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas parce que la population se dit que nous votions ou non, ça ne change rien. Ça ne change rien pour la simple raison que les résultats souvent proclamés ne sont pas ceux qui ont été exprimés. Il en résulte que nous avons des défis à relever. Le premier de ces défis, c'est de pouvoir remobiliser cette population. Et pour pouvoir remobiliser la population, il faut leur donner une certaine garantie que les résultats qui seront donnés seront conformes à ce qui a été exprimé.
Et qui doit donner cette garantie, monsieur Komi ? Je pose la question parce que, oui, vous êtes allé aux élections en appelant vos électeurs à vous suivre. Ils ne vous ont pas suivi. Qui va assurer ce retour à la confiance aux urnes que vous souhaitez ?
Voilà, c'est ce que je dis d'aller avancer en disant qu'il nous faut nous mobiliser d'abord aussi pour lutter contre les fraudes électorales. Cela a été toujours la préoccupation dans notre pays. Et si la communauté internationale peut faire quelque chose à l'endroit du Togo, c'est effectivement que des mesures courageuses, des dispositions soient prises, de sorte qu'il y ait qu'on limite autant que fort faire se peut les fraudes électorales. Parce qu'on ne peut jamais éradiquer à 100% ces fraudes. Et vous voyez, cela est possible. Si par exemple nous avons des observateurs indépendants qui pourraient être dans les bureaux de vote, par exemple.
Mais pour les locales, aucun observateur n'a eu d'accréditation. Il n'y a pas eu d'observation électorale, de mission d'observation électorale.
Effectivement, ce qui s'est passé aujourd'hui, ou bien pour ces élections passées, et je crois que nous ne sommes pas d'accord, mais c'est un fait qui est déjà passé. Mais que faut-il faire pour que la crise au Togo puisse un jour être résolue? C'est qu'il faudrait effectivement mettre en jeu tout ce qu'il faut pour obtenir, pour limiter ces fraudes électorales. Et c'est tout cela pour l'avenir, ce qui doit se faire forcément, c'est qu'il y ait des structures, ou plutôt des mesures précises, permettant de rendre crédibles les listes électorales, des dispositions permettant donc aux observateurs d'être dans tous les bureaux de vote, non pas de manière ponctuelle. Parce que si vous y avez pour une minute, vous pouvez. Oui.
Est-ce que vous vous rendez compte que ce que vous dites là, au fond, c'est un débat qui est permanent dans votre pays depuis 30 ans? Ce n'est pas nouveau le constat que vous êtes en train de faire. Alors, la question est de savoir pourquoi vous allez quand même à des élections, vous en tant qu'opposition, sans jamais obtenir ces garanties que vous énoncez.
C'est-à-dire les garanties de transparence.
Si nous n'étions pas allés, on aurait dit que nous sommes les partisans de la chaîne.
Oui, mais à l'arrivée, demain, vous allez contester les résultats, le même scénario va se reproduire.
Mais c'est pour cette raison, s'il vous plaît, si vous me suivez très bien, que je dis qu'il faut qu'on se mobilise ensemble avec la communauté internationale pour trouver les meilleures solutions. Si nous n'y allons pas, nous sommes coupables d'avoir fait la politique de la chaise vide. Si nous y allons, on nous accuse pourquoi vous y êtes allés, sachant que les élections ne sont pas transparentes. Alors, qu'est-ce qu'on attend de l'opposition togolaise? Vous voyez, qu'on bouge ou qu'on le dit.
Peut-être que Francis Ousenou va à une question, à une réponse à la question de M. Wolukomi. Qu'attend-on de l'opposition togolaise aujourd'hui quand elle va aux élections? Voilà, on estime qu'elle se rend complice des fraudes électorales. Quand elle n'y va pas, on lui accuse de boycotter et de pratiquer une politique de la chaise vide. Que doit faire l'opposition aujourd'hui, l'opposition togolaise Ousenou?
Absolument, Liliane. J'ai certainement une analyse de ce que j'observe comme étant un dilemme chez votre invité, M. Komi, celui d'être à la fois un acteur d'un processus électoral et de vouloir être l'évaluateur en même temps des règles du jeu de ce processus électoral-là. Ce n'est pas facile. Il a l'air, excusez-moi l'expression, d'avoir le cul entre deux chaises. Mais je veux dire, dans beaucoup de pays africains où il y a eu un processus multipartite et démocratique qui s'est déroulé sur plusieurs années, l'opposition a souvent été dans cette problématique-là. Je crois que la principale leçon que j'en tire personnellement, c'est qu'un processus démocratique, c'est la double responsabilité à la fois de l'opposition et du pouvoir central. Et de ce point de vue-là, j'observe que pendant 3 ans, on a eu un blocage avec une opposition togolaise qui estimait que le processus devait être top-down, c'est-à-dire que la mère des élections, la présidentielle, était la plus importante. Et là, j'observe que le président Eyadema a réussi, Fornia Simbe, a réussi à déverrouiller quelque part le panorama politique en proposant une élection bottom-up. Et moi, ce que j'ai observé avant l'élection, en tout cas, je ne sais pas quel sera le taux de participation à ces élections locales-là, mais les reportages qui avaient été faits auprès de la population avant l'élection laissaient penser qu'il y avait une forte appétence de la population pour aller voter.
Merci, Ousenou. On va marquer une pause obligatoire.
Le débat, BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
avec notre grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Lomé au Togo, Wolu Komi, secrétaire général du Pacte socialiste pour le renouveau, le PSR. C'est un parti de l'opposition togolaise. Notre confrère invité au téléphone depuis Sali au Sénégal, Ousseynou Narguey, éditorialiste, directeur de la publication du site d'information tract.sn. On va poursuivre le débat sur le Togo avec Ousseynou qui va conclure quand même son propos. Hein. Ousseynou Narguey.
Non, la conclusion que je faisais, c'était que en participant à cette élection-là, je crois que l'opposition togolaise a eu est allée dans le bon sens et que la démocratie ne peut pas se limiter à une recherche d'alternance par la présidentielle tous les 5 ou 7 ans. La démocratie, c'est également des élections locales qui sont supposées impacter dans le quotidien des populations qui en attendent, l'érection d'une école, le désenclavement de villages. Et de ce point de vue-là, je crois que la forte mobilisation, la forte participation, non pas des électeurs, mais en tout cas des acteurs politiques, avec 24 partis politiques et plus d'une centaine de listes indépendantes, je pense que c'est un baromètre très, très, très pertinent pour dire que ces élections-là, de mon point de vue en tout cas, vues de Dakar, vues de loin, sont un succès et une belle respiration pour la démocratie fragile, la démocratie togolaise encore fragile.
Wolu Komi, le président Faure Gnassingbé a indiqué à ses concitoyens que ces élections marquaient, je le cite, une avancée majeure dans l'enracinement de la démocratie. Et ma question, en quoi ces élections vont-elles renforcer la démocratie dans votre pays avec ce faible taux de participation et l'absence quand même d'une partie de l'opposition ?
Oui, je crois que le président de la République est parti plutôt des principes et non donc des faits. Et si on s'en tient effectivement aux principes, ces élections locales auraient permis un véritable enracinement de l'opacité, étant entendu que les électeurs vont élire ceux qui vont s'occuper des problèmes qui leur sont quotidiens. Donc à la différence, par exemple, des élections législatives où vous élisez les députés qui vont à la capitale et qui osent. Et ils n'ont pas les mêmes attributions ou les mêmes préoccupations. Alors que les élections locales, en réalité, vous avez des personnes d'opportunité qui s'occupent de vos réels problèmes. Donc il y a une sorte de discussion permanente entre les acteurs. Il est possible qu'on puisse rendre compte de façon beaucoup plus efficace. Malheureusement, ou plutôt pour que ces résultats soient atteints, il faut effectivement que ceux qui sont élus et soient reconnus comme de véritables représentants. Mais comme vous le voyez, avec un taux de participation très faible, cela voudrait dire qu'une grande partie de la population ne se reconnaîtra pas dans ces représentants. Et autre élément, si on ajoute à la faible participation les fraudes qu'il y a eu, et vous voyez dans ces conditions que l'adhésion de la population pourrait être donc plus faible qu'il faut.
Quand vous parlez des fraudes, avant même qu'on ne connaisse, la commission électorale ne donne les résultats de cette élection. Est-ce que cela veut dire que l'opposition se prépare déjà pour la contestation ?
Non, madame, ce n'est pas que nous nous préparons.
Ou autrement dit, se prépare déjà pour la défaite.
Je vous parle des éléments que j'ai constatés. J'étais sur le terrain. Je suis en contact permanent avec les candidats qui sont sur le terrain. Je peux vous rapporter des faits. En donnant même des noms ou bien des circonscriptions. Si
je ne peux pas, je ne suis pas en mesure de confirmer ou de contester ce que vous dites, monsieur Komi. Oui, je demande, est-ce que cela veut dire que l'opposition s'apprête aujourd'hui à contester les résultats qui seront connus déjà d'ici ce week-end, en principe?
Que nous contestons ou pas, les faits sont là, la réalité des fraudes, c'est coutumier au Togo. Je vous donne un exemple qui peut vous paraître bizarre. Dans une commune à l'intérieur du pays, où certains délégués donc de notre parti s'opposaient aux fraudes, et un baron donc du régime en place a eu le culot de s'adresser directement à notre candidat, c'est-à-dire pour lui dire « donne des instructions au tien pour qu'il laisse faire dans l'intérêt du village ». Vous écoutez, dans l'intérêt du village, cela suppose que si dans leur village il y a une représentation, il y a des électeurs qui votent pour l'opposition, ils seront mal vus par le régime sur le plan national. Il dit, dans l'intérêt de notre village, demande à ses délégués de laisser faire. Vous voyez à quel point, jusqu'à quel point, les fraudes sont entrées dans les mœurs et constituent une réalité. Et
le défi
maintenant...
Oui, allez-y, oui.
Oui, et le défi, c'est de pouvoir mettre fin à ces situations. Donc, ce n'est pas que nous nous apprêtons à contester, mais évidemment, il y a eu des fraudes. Mais il faut ajouter un autre élément en notre défaveur et qu'il faudrait le reconnaître. Le porte d'abstention est forcément défavorable à l'opposition parce que les électeurs du régime, et ils sont toujours mobilisés. Mais ce sont les électeurs de l'opposition qui estiment que les résultats ne sont jamais conformes à leur vote qui s'abstiennent. Donc, toutes les fois qu'il y aura abstention, ce serait au détriment donc de l'opposition. Et ce sont des défis dont on doit être conscient et de pouvoir lutter pour pouvoir obtenir de meilleurs résultats dans l'avenir.
Bon, on va parler de fraude présumée hein, pour l'instant, en tout cas, puisque si vous contestez, il faudra que vous apportiez les éléments matériels pour consolider vos propos. Je voulais juste un commentaire. Hein. Bon, voilà, c'est un élément, peut-être un détail hein, dans ces élections, mais la presse a relevé que le décompte des bulletins a été effectué par endroits dans des conditions très précaires, parfois sans électricité et à la seule lumière des téléphones portables. Comment peut-on expliquer ce genre de situation dans un pays où des élections sont organisées depuis plusieurs décennies?
Oui, donc il faudrait s'adresser à la CENI et au régime en place. Et ce n'est pas tout. Et figurez-vous par exemple que les procès-verbaux n'étaient pas disponibles en nombre suffisant pour que les délégués puissent en avoir. Les CENI ont dit, les présidents parfois de CENI ont dit qu'ils ne disposaient que de 3 exemplaires de procès-verbaux. Donc, un sera renvoyé sur le plan national à la Commission nationale, un qui devrait être gardé par la CENI et le troisième exemplaire, je crois, et à une autre institution, et que les délégués ne devaient pas pouvoir en avoir. Vous voyez, quand on puisse en arriver à de telles situations, cela voudrait dire de façon intentionnelle, soit il y a la préparation d'une fraude, ou soit il y a une incompétence, ou parce que les choses ont pu se faire dans la
précipitation.
Oui.
Si vous permettez.
Oui, très rapidement, ou c'est
non? Oui, non, très rapidement. Moi, quand j'entends parler de CENI, de Commission électorale nationale indépendante dans nos pays africains subsahariens, ça me donne de l'urticaire. Je crois que c'est une institutionnalisation de la méfiance entre les camps politiques. Je crois que dans un pays normal, il faudrait qu'on s'achemine à nouveau vers des situations, et le Togo n'est pas exempt dans ce cadre-là, où c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections et il n'y a pas d'organe qui institutionnalise la méfiance entre les camps comme les CENI. Je crois que de parler de fraude putative alors qu'on participe à des élections, ça participe vraiment d'une fragilisation de la démocratie. Et je veux terminer sur une chose. Dans nos pays, on utilise un véhicule ancien qui est le parti politique, mais les partis politiques ne font plus un travail ancien que les partis faisaient, qui est celui de l'éducation populaire, l'éducation des masses,
la pédagogie,
l'école de parti, l'éducation des militants. Je crois que c'est important. C'est de la responsabilité aussi des partis politiques si les électeurs ne vont plus aux urnes.
Merci, Lucien. Merci beaucoup. Monsieur Komi va sans doute répondre en 30 secondes, mais je voudrais si vous... Également, M. Komi, vous demandez, puisqu'il s'agit des élections locales, comment les populations peuvent-elles justement s'organiser pour tirer le meilleur parti de cette élection organisée après 32 ans et pouvoir ressentir l'impact dans leur vie quotidienne?
Bon, d'abord, pour répondre assez rapidement à la première question où les commissions nationales indépendantes sont une institutionnalisation. A priori, on pourrait le dire. Mais lorsque vous êtes dans un pays dans lequel l'administration ne fait pas pour une neutralité et qu'on assimile, l'administration s'assimile au pouvoir en place, il est difficile de concilier l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. C'est la relation entre les faits et le droit, en réalité. Ce sont les réalités de nos pays qui ont conduit à cette situation. Deuxième élément sur la formation et des militants par les partis politiques. C'est vrai, beaucoup de partis ne le font plus. Mais moi, je pourrais parler au nom de mon parti pour vous dire que nous le faisons. Je peux vous rappeler certains termes récents, l'exemple de l'ethnie dans la politique au Togo, ou encore démocratie et justice. Ça fait partie des derniers colloques que nous avons fait en intention de nos militants. Et donc, l'observation n'est pas valable pour l'ensemble des partis politiques.
Et très rapidement...
Ensuite, maintenant, comment les partis politiques et disons la population pourraient tirer profit de cette situation. Disons qu'il faut attendre pour voir comment ces mairies seront gérées. Et comme je vous le dis, on aurait aimé une élection avec davantage d'engouement, avec des structures bien représentées dans lesquelles toutes les formations seraient très bien représentées, pour qu'il y ait plus de débats, de démocratie. Et bon, je ne suis pas sûr qu'on puisse obtenir ces résultats, mais dans tous les cas, il appartiendra aux maires et aux conseils municipaux localement de pouvoir faire adhérer les populations à leur programme d'action, de sorte que les populations soient elles-mêmes des acteurs.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Suite au débat BBC Afrique, Africa Radio, notre grand témoin invité au téléphone depuis Lomé, Wolu Komi, secrétaire général du Pacte Socialiste pour le Renouveau, le PSR, membre de la coalition des forces démocratiques de l'opposition. Notre deux confrères invités. Alors, est-ce que je demande à Dakar si nous avons été rejoints par Karim Khébir.
Non, Francis, nous n'arrivons pas à rejoindre notre ami d'Alger.
Bon, il faut que moi, nous enregistrons cette émission à Alger. Les rues sont évidemment prises d'assaut par les manifestants pour un vendredi de plus. Donc, nous sommes toujours en compagnie de notre confrère Ousseynou Narguey, éditorialiste, directeur de la publication du site d'information tract.sn. Il est au téléphone avec nous depuis Sali, au Sénégal. Nous allons parler de l'Algérie. Alors que le bras de fer se prolonge entre le pouvoir intérimaire et l'armée algérienne, d'une part, et d'autre part, le mouvement de contestation qui maintient ses revendications. Le président par intérim Abdelkader Ben Salah a proposé cette semaine la tenue d'un dialogue national inclusif afin de parvenir à l'organisation de l'élection présidentielle. Seule voie, estime-t-il, pour sortir le pays de la crise. Il faut rappeler que la présidentielle initialement prévue pour ce 4 juillet n'a pas eu lieu faute de candidats. Ce dialogue devrait, selon Abdelkader Ben Salah, se tenir sans l'armée et sans les autorités politiques, mais essentiellement avec un panel de personnalités issues notamment de la société civile ou de l'opposition susceptibles de constituer, je cite, un organe ou une autorité indépendante, fin de citation, chargée de superviser toutes les étapes du futur processus électoral. Une proposition accueillie avec méfiance par les différents acteurs de la contestation dans un contexte de plus en plus marqué par une crise de confiance entre les autorités politiques et la population. On va vous poser une première question, Wolu Komi, sur cette actualité algérienne. C'est vrai que c'est la première fois que le président par intérim prend une initiative forte comme celle-là, avec cette proposition. Est-ce que c'est une manière, selon vous, de mettre l'armée hors jeu, l'armée qui a occupé le terrain depuis plusieurs semaines ?
Je n'en suis pas très sûr, parce que il est possible, ça m'étonnerait d'ailleurs qu'une solution puisse totalement aboutir sans que l'armée ait été au moins associé, invité, pour qu'il vienne au moins être un observateur à ces discussions. Parce que la mise en œuvre peut-être de ces décisions, si elle ne rencontre pas l'assentiment de l'armée dans le contexte actuel de l'Algérie, et ça pourrait poser des difficultés. Et je crois que le principe aurait voulu effectivement que l'armée soit totalement hors jeu, mais lorsqu'on prend en compte les réalités du pays, et je crois qu'il faudrait certainement les associer, au moins pour l'instant, qu'ils soient aussi témoins des décisions qui seront prises et qu'ils y consentent et qu'ils s'obligent aussi à les respecter pour pouvoir sortir de cette situation.
Ousseynou Narguey, alors cela étant, le président par intérim, Abdelkader Ben Salah, insiste sur le fait que ni l'État ni l'armée ne prendraient part à ce dialogue. Et l'État se contenterait de mettre tous les moyens matériels et logistiques à disposition de ce panel de personnalités. J'ai cité le président par intérim. Ousseynou, c'est un format de dialogue tout à fait particulier. Est-ce que c'est possible justement de parvenir à des consensus sans l'État et sans l'armée qui sont tout de même eux aussi des protagonistes de cette crise ?
Écoutez, l'État n'est pas légitime parce que c'est un État, on va dire, incarné par une personnalité intérimaire. L'autre chose...
Il n'est pas légitime, mais il existe l'État encore.
Comment ?
Il n'est pas légitime, mais l'État existe encore.
Oui, il existe, certes, mais je crois que la revendication principale qui nous mène à la 20e manifestation ce 5 juillet, aujourd'hui donc, à la date
où nous enregistrons l'émission,
ce qui se passe, c'est que ce qu'ils demandent, c'est la fin de cette légitimité historique de l'armée hérité de la lutte de libération avec l'indépendance en 62, qui fait que l'armée est au centre de tout depuis 50 ans.
Ousseynou Narguey, ma question était de savoir
de
si le format...
Je crois que
ma question était surtout de savoir si cette proposition, ce format de dialogue proposé était un format crédible.
Je, je constate en tout cas qu'on en arrive à ce que proposait le président Bouteflika avant qu'on ne l'oblige à descendre de son fauteuil roulant, c'est-à-dire une conférence nationale. Et effectivement, il faudrait que ce soit fait avec des acteurs qui soient porteurs de changement. Et aujourd'hui, ni l'armée, ni l'État, l'État tel qu'il est incarné aujourd'hui, ne sont à même d'apporter ce changement qui est demandé par les Algériens et notamment par la jeunesse algérienne.
Monsieur Komi, alors, à ce stade-ci, on n'a pas pu organiser les élections. On ne sait pas très bien où en est le processus, c'est la confusion en tout cas. L'offre de dialogue dont parlait Francis, faite par le président intérimaire, est rejetée. En tout cas, la société civile se montre très méfiante. Mardi, c'est la fin de l'intérim du président intérim entamé le 9 avril dernier. Est-ce qu'on peut éviter, au regard de ce que je viens d'expliquer, un vide constitutionnel?
Bon, je crois qu'en principe, son mandat prenant fin et l'État devant continuer d'exister. Et évidemment, ils doivent trouver une solution pour que son mandat puisse, ou plutôt que la période puisse être prolongée.
Sauf que la Constitution ne prévoit pas ce cas de figure, ne prévoit pas ce qu'il faut faire si au bout de 3 mois d'intérim, il n'y a pas d'élection.
Oui. Il y aura vide constitutionnel, si vous le voulez, mais je crois que, étant entendu qu'il n'existe pas pour l'instant un organe qui soit considéré comme légitime, d'émanation peut-être du peuple aussi, et que la solution actuelle est celle que la Constitution avait envisagée, et en attendant qu'il trouve une solution beaucoup plus adaptée, il est probable que son mandat puisse se poursuivre. Et les 3 mois sont passés, mais encore faut-il que l'État puisse continuer d'exister. Et il faudrait pour cette raison, je crois, une discussion franche et sérieuse, mettant en valeur ou en exergue l'intérêt général, parce qu'aucune autre solution ne permettrait de sortir de cette crise.
Ousseynou Narguè, quelles sont les conséquences possibles de cet éventuel vide constitutionnel? Est-ce que cela ne risque pas de remettre au centre du jeu l'armée qui est en train d'être rejetée justement par les manifestants?
J'observe en tout cas que l'intérimaire provient de l'armée. J'observe également qu'à la différence de ce qui s'est passé avec les printemps arabes, je pense notamment à l'Égypte, où celui qui a mis fin à la chienlit et au désordre généralisé, le général Al-Sisi l'a fait à son propre profit et a organisé des élections pour les gagner. Au moins, le président intérimaire algérien ne montre pas, ne fait pas montre de vouloir prendre le pouvoir pour lui-même. Voilà. Donc, je crois que cette situation...
Mais c'est le cas pour l'instant, mais les difficultés, justement, à trouver des solutions à l'après-période intérimaire ne risquent justement de conforter le président intérimaire à rester et à garder ce pouvoir.
Oui, mais je disais qu'il faut, à la différence de M. Komi, qui demande à la communauté internationale de soutenir la démocratie au Togo, j'observe que l'Algérie est très jalouse de son processus politique et qu'elle ne veut aucune intervention extérieure là-dedans, aussi bien que ce soit la société civile que l'armée ou l'État tel qu'il est incarné aujourd'hui, ils ne veulent d'intervention extérieure de personne. Donc j'ai confiance qu'ils trouveront les ressorts en eux pour, s'il le faut, mettre fin, en tout cas éviter un vide constitutionnel, y compris en prorogeant de manière extraordinaire, c'est-à-dire non prévu par la Constitution, le mandat actuel du président intérimaire.
Justement, Wolo Komi, encore une question. Pourquoi, au fond, est-on si pressé d'organiser cette présidentielle? Parce que le président intérimaire Abdelkader Ben Salah, tout comme le chef d'état-major, n'arrête pas de répéter qu'il faut absolument aller à cette présidentielle. Pourquoi ne pas prendre le temps nécessaire pour trouver des solutions à toutes ces questions, questions systémiques qui ont été soulevées depuis le début de la crise?
Je suis entièrement d'accord avec vous. Dans la vie d'une nation, et pour des questions aussi essentielles, à mon sens, c'est qu'il faut éviter la précipitation et organiser, prendre le temps nécessaire pour réorganiser les institutions. Et je crois que cette volonté d'aller vite et de se précipiter et peut s'apparenter à une mesure destinée à conserver le pouvoir, non pas directement par le président actuel, ni par l'armée, ou de placer des personnalités qui seraient à leur goût. Or, si on prend le temps nécessaire, on fait les réformes institutionnelles, on essaie d'assurer la transparence des élections, et cela permettra de faire émerger des personnalités qui seront effectivement choisies par le peuple. Et cela conduirait également à une stabilité à long terme. Il ne s'agira pas d'une stabilité imposée, mais une stabilité véritablement qui corresponde aux réalités du pays.
Oussano, je voudrais revenir avec vous 30 secondes sur les propos que vous avez tenus tout à l'heure, tout en peut-être précisant que le problème peut-être, M. Komi, suite à la question de Francis, c'est que la rue se montre impatiente et exige des élections. Oussano, vous disiez que l'Algérie, on sait, est très jalouse de sa souveraineté. La société civile, comme l'armée, ne souhaite pas d'intervention extérieure. Justement, compte tenu de la crise qui dure et le blocage observé et peut-être l'impasse vers laquelle on s'achemine, est-ce qu'il n'est peut-être pas temps d'envisager une médiation extérieure, peut-être de l'Union africaine, les Nations unies ou la Ligue arabe?
Je ne pense pas qu'elle serait acceptée. Ce que je dis, c'est que la rue algérienne ne dit pas encore clairement ce qu'elle veut, mais au moins elle sait ce qu'elle ne veut pas, et elle ne veut pas d'une perpétuation du pouvoir de l'armée.
Mais c'est le pouvoir politique d'ailleurs qui est pressé d'aller à la présidentielle, davantage que la rue.
Oui, je crois qu'ils sont pressés parce qu'au-delà du pouvoir politique qu'ils ont toujours eu en étant dans l'ombre et en faisant du président de la République algérienne un polichinelle de l'armée, je crois qu'ils ont aussi des avantages économiques très importants dans ce pays-là, l'armée et les généraux, et peut-être qu'ils ne voudraient pas, de mon point de vue en tout cas, qu'on en arrive à contester également ce pouvoir économique-là, cette mainmise sur l'économie algérienne. Je crois qu'ils sont pressés de restituer la patate chaude qu'on leur a refilé, et c'est pour ça que le président intérimaire, aussi bien que le chef d'état-major...
Et en 30 secondes, sur la médiation extérieure possible, et peut-être...
Peut-être de la Ligue arabe,
urgente.
Peut-être de l'Union africaine, mais de pays
des
occidentaux, notamment de puissances occidentales, je ne pense pas que ce serait accepté. D'ailleurs, elles sont très muettes. Il y a eu quelques interventions au début, notamment de la France, qui a souhaité que le processus aille dans le bon sens démocratique, mais je crois qu'ils se sont vite fait rappeler à l'ordre et qu'ils ne le disent plus. Maintenant, bon, oui, l'Union africaine pourrait tenter une médiation ou la Ligue arabe, d'autant qu'on va se retrouver dans une situation de vide constitutionnel très rapidement.
Merci. Francis, on va passer très rapidement au dernier sujet, la République
sans
démocratique.
Sans transition, je suppose.
Voilà, vous l'avez compris. La République démocratique du Congo, qui dirige la coalition Lamuka. Officiellement, c'est Moïse Katumbi qui en est le patron, théoriquement jusqu'en août prochain. Mais c'est son prédécesseur à la tête de ce regroupement politique de l'opposition, Martin Fayoulou, candidat de Lamuka à la présidentielle, qui fait le tour des médias et qui est en première ligne pour appeler les partisans de la coalition à manifester contre le pouvoir, selon lui, illégitime, de Félix Tshisekedi. Dernière initiative, l'appel avec Jean-Pierre Bemba, leader de l'ANC, du MLC, fraîchement rentré à Kinshasa, a manifesté le 30 juin dernier, jour de la fête de l'indépendance, une initiative qui lui a valu par la suite des remontrances de ses amis de la Mouka qui estiment que le texte de la coalition dénonçant la répression de la marche interdite du reste par les autorités n'avait ni été validé ni signé par les 5 dirigeants de la coalition. Première question avec vous, Monsieur Wolo Komi. Alors, peut-on parler de bicéphalisme à la tête de la Mouka et est-ce qu'il est prématuré de s'interroger sur l'avenir même de cette coalition, la Mouka?
Non, je crois personnellement qu'il n'est pas prématuré de parler donc de son avenir. Dès lors qu'en son sein, les positions ne sont plus très homogènes et que les dissensions ne restent pas à l'intérieur, que les dissensions sont portées et à la connaissance du public, et cela veut dire bien évidemment qu'il y a un réel problème. Parce que leur positionnement par rapport au pouvoir actuel n'est plus le même. Et on sent certains d'entre eux qui, plus ou moins, semblent s'accommoder, ou tout au moins ne veulent pas une confrontation assez forte avec le régime en place, alors que d'autres voudraient continuer la contestation relativement aux élections qui se sont déjà passées.
Donc pour vous, quand vous analysez la situation, l'éclatement à court terme ou à moyen terme de la Mouka est inévitable?
Dans tous les cas, sa fragilisation me paraît évidente. Et quand elle sera suffisamment fragilisée, son action ne sera plus d'envergure.
Hossein Ounargué, je vais évoquer avec vous ce document, vous le savez, qui a fuité sur les réseaux sociaux cette semaine. Un document dans lequel Martin Fayoulou entreprend une démarche personnelle en proposant à Félix Tshisekedi la création d'une institution dénommée Haut Conseil National des Réformes Institutionnelles, dont il serait le dirigeant, institution destinée à réfléchir sur les réformes à opérer. Et puis, pendant une période de 12 à 18 mois, pendant laquelle Félix Tshisekedi restera aux commandes de l'État jusqu'à l'organisation de nouvelles élections générales. Alors, c'est un document qui a mis le feu, évidemment, à la maison Lamouka. Est-ce que cette affaire pourrait signer définitivement, je dirais, la fin de la contestation de la dernière présidentielle en RD Congo et partant même rendre caduque cette coalition Lamouka?
Alors, moi, le bicéphalisme, en tout cas, que je trouve très inquiétant pour la RDC, c'est celle au sommet de l'État avec un président Félix Tshisekedi qui n'est pas encore installé dans le fauteuil, en tout cas accepté, notamment par la classe politique, avec son partenaire qui est l'ex-président Kabila, voilà, qui l'empêche de former un gouvernement. Et je crois que la contestation et aussi les négociations en coulisses pour un partage du pouvoir avec la Lamouka et et l'opposition est favorisée par, j'allais dire, ce vide au niveau du pouvoir d'État. Donc maintenant, je ne pense pas que cela mettrait fin à la contestation. Mais
il y a quand même une contradiction dans la démarche de Fayoulou. C'est ça que remarquent d'ailleurs ses compagnons désormais, qui disent, voilà, d'un côté, je vais vous citer un commentaire de Francis Kalombo, proche de Moïse Katumbi, qui écrit à propos de Martin Fayoulou, la journée, on envoie le peuple dans la rue se faire tuer, et la nuit, on négocie un poste pour soi seul à la tête d'une institution.
Oui, mais du Sénégal où je vous parle, on a souvenir que quelqu'un qui est parvenu à matérialiser la première alternance politique au Sénégal, Abdoulaye Wade, négociait également en coulisses. Il a été deux fois dans les gouvernements d'Abdou Diouf. Donc,
de cohabitation.
Je pense que de cohabitation, en tout cas de majorité présidentielle élargie. Donc je crois qu'on ne peut pas prendre Martin Fayoulou ou en tout cas les leaders politiques simplement parce qu'ils sont de l'opposition pour des chevaliers blancs sur leur fier destrier. Il y a des réalités politiques, effectivement, qui font que, en même temps qu'on conteste dans la rue, on peut négocier le soir dans des antichambres du pouvoir.
Merci. Monsieur Komi, en quelques secondes, d'ici août, Moïse Katumbi devra passer la main. Je vous demande peut-être de lire dans une boule de cristal, mais qui va lui succéder? Est-ce une personne proche de la ligne de Katumbi, c'est-à-dire celle de l'apaisement, ou plutôt de celle de Fayoulou, compte tenu du fonctionnement actuel de Lamouka?
J'avoue qu'il serait difficile de le dire, mais je crois qu'il est peu probable que ce soit la voie de l'apaisement. Parce que s'ils optaient pour la voie de l'apaisement, bien évidemment, cela voudrait dire que les contestations ne seront plus en réalité assez vives. Et je crois que si on optait pour la voie de l'apaisement, et ceux qui ne veulent pas de cette voie risquent de sortir même totalement, bien de mettre fin à la coalition. Et ce ne sont que des principes, mais je ne saurais le dire avec une certitude.
Merci.
C'est un pronostic, c'est une analyse. C'est le moment d'écouter les messages des internautes, nos amis sur Internet, sur notre page Facebook. Message recueilli et livré à présent par Didier Ladislas Landau.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat_bbcafrica et sur notre page Facebook facebook.com/débat_bbcafrica.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Togo Fulciano Sabadogo se demande si l'opposition togolaise ne manque pas de méthode face à un pouvoir beaucoup plus fort. Firmin Ressou, de son côté, pense que cette élection ne va rien changer à la démocratie togolaise, qui selon lui est un legs du père au fils. Olivier Mariki, quant à lui, pense que l'opposition togolaise radicale dont fait partie notre invité manque de maturité. Pour notre internaute de Adetikopé au Togo, cette opposition ne pense qu'à ses intérêts. Algérie, Djimranga Tchandjoum Ozana appelle le peuple algérien à rester uni afin de dégager tous les caciques du régime de Bouteflika. Pour lui, seul le courage du peuple déterminera l'issue de cette révolution. RDC, Charles Bazema estime que la situation en RDC est une équation à plusieurs inconnus. Pour lui, il y a d'une part le camp Kabila et d'autre part le camp Fayoulour et le peuple. Le président Tshisekedi serait donc pris entre deux feux. Sangaré Albert, lui, appelle Fayoulour à faire passer l'intérêt du peuple avant ses intérêts et à ainsi contribuer au développement de son pays. Merci à François-Cyril Gondom, Achille Boukonde-Kabangé et Strosky Pompidou-Djata qui nous ont rejoints cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/débat-bbc-africa-africa-radio et sur Twitter à @débat-bbc-africa. Et d'ici là, bon week-end à tous.
À vous également.
Bon week-end à vous, Ladislas. Didier. Une voilà. Conclusion générale, Wolu Komi, c'est la tradition de l'émission. Je sais pas, peut-être que Lilian a relevé un message particulier.
Oui,
pour
un
vous.
Message sur celui peut-être de Fulciano Sawadogo qui se demande si l'opposition togolaise ne manque pas de méthode face à un pouvoir beaucoup plus fort. On en a parlé un tout petit peu.
Oui, je crois que, et ce n'est pas la première fois que les gens le disent, les difficultés sont réelles. Et vous savez, il faut parfois être acteur pour savoir ce que nous vivons et les difficultés de tous ordres face à un pouvoir ou peut-être à un régime qui a tous les moyens nécessaires, les moyens financiers, les moyens militaires et beaucoup d'autres choses. Et la méthode peut être perfectionnée ou est perfectible, dirais-je, mais dire qu'on manque de méthode, je crois que ce serait une accusation un peu trop forte. Mais nous sommes toujours ouverts aux observations qui nous permettront de mieux avancer.
Peut-être pas un manque de méthode, mais un manque d'unité, peut-être.
Pardon ?
Un manque d'unité, peut-être.
Oui, et vous voyez, c'est très difficile de demander peut-être à toute l'opposition togolaise d'être unie. L'unité de l'opposition n'est pas en soi une exigence dans un pays, c'est le contexte togolais qui fait qu'on souhaiterait qu'il y ait cette unité, et même si ce n'est pas une unanimité de l'opposition, qu'il y ait quand même un bon nombre de partis qui puissent se retrouver dans un cadre pour mieux faire avancer les choses.
Et merci.
Je l'avoue, la bataille est très difficile.
Merci Wolu Komi d'avoir été notre grand témoin dans cette édition de Débat BBC Afrique, Africa Radio. Vous êtes secrétaire général du Pacte Socialiste pour le Renouveau, le PSR, membre de la coalition des forces démocratiques de l'opposition. Nous étions accompagnés également de notre confrère Ousseynou Narguey, éditorialiste, directeur de la publication du site d'information tract.sn. L'émission a été réalisée à Dakar par Abdou Diop. Régie technique assurée à Paris par François Richard, chargé de production Didier Ladislas Lando. Vous pouvez réécouter cette émission, bien sûr, en podcast sur nos sites respectifs, africaradio.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, Liliane, pour une nouvelle édition de Débat BBC Afrique, Africa Radio. Bon week-end à toutes et à tous. Bon week-end
merci.
À vous, Liliane.
Avec plaisir, Francis. On se retrouve dans la semaine prochaine. Excellent week-end à vous et à tous.
Au revoir.
Au revoir.